L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Et célébrons Dieu. Alors, pasteur Jérémy est un pasteur associé ici à l'Église de la Victoire. Il a déménagé de la France et maintenant il est ici. Alors, on est content de l'avoir.
Bonjour à tous. Effectivement, je suis français, alors il faudra m'excuser, mon accent français. Je me souviens, quand on parle de Noël, ça me rappelle toujours un événement qui s'est passé dans ma vie. C'était le 1er janvier 2003. Moi, je priais, j'étais quelqu'un qui allait dans les églises, mais il ne s'était rien passé de personnel pour moi. Et un jour, ce 1er janvier 2003, j'ai parlé à Dieu avec conviction, à ce petit Jésus-là. Et à ce moment-là, sa puissance d'amour est tombée sur moi. C'était un événement extraordinaire. Et maintenant, à chaque fois que je lui parle, avec conviction, cette même présence d'amour est là. Et je sais qu'il est là. Et ce matin, je vais vous lire, en fait, de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et je vous invite vraiment à imaginer comment ça s'est passé. Et même si vous voulez fermer vos yeux, projetez-vous un peu dans cette scène. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1 et au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Au chapitre 2 de Matthieu, on peut lire, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute la ville de Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, les religieux, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui va paître Israël, mon peuple. » Dans Luc, au chapitre 2, on lit la suite de ce récit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Merci. Il lit bien, hein, ce français-là. C'est pour ça que je l'avais fait lire. Là, on retombe en québécois. Vous allez me comprendre, hein? Vous l'avez bien compris. Bien, ce matin, on va pencher nos regards encore une fois dans l'histoire de Noël et on va parler justement la célébration de Noël, c'est quoi au juste? C'est un message de Noël parce que pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens, ils passent leur temps à aller dans les magasins à droite et à gauche et des fois, on perd le focus. Pourquoi on fête vraiment Noël? Est-ce que c'est juste pour donner des cadeaux? Certainement, on aime ça avoir des cadeaux, mais il faut se rappeler du plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Alors, on va parler aujourd'hui de Jésus pendant quelques instants et on va voir qu'est-ce qu'il fait pour nous. Donc, je vais vous inviter, on va juste pencher nos têtes pendant quelques moments, on va prier et remettre ce temps-là à Dieu. Père éternel, on vient devant toi ce matin, on veut te remercier Seigneur pour le privilège qu'on a ici au Canada où on peut lire la Bible, on peut lire la Bible en toute liberté. On te remercie Seigneur pour cette liberté qu'on a et on te remercie également pour ton esprit qui est ici ce matin pour ouvrir notre intelligence à recevoir toutes les bonnes choses que tu en réserves pour nous aujourd'hui. On a prié au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors voilà 700 ans. Il y a un prophète avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ, il y avait un prophète qui s'appelait Ésaïe. Et puis, il a prononcé ses paroles concernant un enfant. Je vais vous lire le texte dans Ésaïe, chapitre 9. Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et on le sait que 700 ans plus tard, cette prophétie s'est réalisée à Bethléem dans la personne de Jésus. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Là, on lit dans Luc 2, 16, il est écrit, « Les bergers se dépêchèrent et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire, dans une étable, bien sûr, à Bethléem. » Alors, on voit ici l'annonce qu'il y aurait un prince, le prince de la paix. Et par la suite, on voit la réalisation de cette prophétie 700 ans plus tard. Mais ce prince, il vient au monde dans une étable. Et habituellement, on va s'imaginer, lorsque un roi ou un prince vient au monde, on va s'imaginer qu'il va naître dans un grand palais, un château, quelque chose de merveilleux. Mais Jésus ici, on le voit comme étant un homme qui s'est humilié. Et on va voir ensemble pourquoi ce prince, pourquoi ce prince et pourquoi ce petit Jésus. Je vais vous lire un autre texte. Vous connaissez la mère de Jésus, Marie, a reçu une parole, même lorsque son bébé avait 40 jours seulement. Vous savez, Jésus, c'est un enfant, mais il avait toute une destinée, une grande destinée. Comme chacun d'entre nous, nous avons tous une destinée. Dieu a tous choisi que chacun d'entre nous, qu'on pourrait le rencontrer personnellement. Et tout au long de notre vie, il y a un beau chemin pour nous, une table de bénédiction dressée devant nous. Et on a juste à dire oui et recevoir ces choses-là, ces cadeaux que Dieu veut nous donner. Mais si on se tourne pendant quelques moments à Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 34 à 35. Ici, on trouve un homme qui était au temple lorsque Joseph et Marie étaient là pour présenter Jésus à Dieu. Donc, Siméon les bénit en parlant de Joseph et Marie et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. » Il y aurait de l'opposition. Et on l'a vu certainement, si vous lisez la Bible parfois, vous pouvez voir qu'il y a de l'opposition contre Jésus. Verset 35, il est écrit, « Il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Et hier soir, pendant que j'étais en train de lire ces passages-là, je réfléchissais à Marie. Pouvez-vous vous imaginer, si vous étiez Marie, vous venez d'avoir un beau petit bébé comme ça, vous l'aimez, et là, quelqu'un vous donne une parole comme ça, ton cœur va être transpercé par la douleur. On n'aime pas ça entendre des paroles comme ça, mais Marie le savait déjà. Elle savait que l'enfant qu'elle avait porté était vraiment spécial, que c'est un enfant qui toucherait le monde entier. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on parle encore de cet enfant. Et elle savait à quelque part qu'un jour, son enfant lui serait enlevé. La perte d'un enfant, c'est terrible, mais elle savait à l'avance, même ça avait été prononcé par Siméon 40 jours après la naissance. Mais quand on comprend que Jésus avait une mission, quelle était cette mission? Bien, on voit dans Romains, chapitre 5, verset 8, ça dit « Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous savez, quand on parle de Jésus, quand on parle de Noël, on peut pas passer à côté le fait de savoir que Jésus est venu sur la terre pour un but précis. Et c'était parce que Dieu nous aimait tellement qu'il a décidé de venir nous sauver de nous-mêmes, nous sauver du péché. Et des fois, on dit, ben c'est quoi que ça veut dire ou juste le péché? Péché, ça veut dire manquer le but. Ça veut dire être imparfait. Je sais ici, vous êtes tous parfaits, mais moi, j'ai réalisé un jour que j'étais imparfait. Peut-être qu'il y en a d'autres, j'ai entendu quelqu'un rire. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez réalisé que vous êtes des personnes imparfaites? Eh bien, c'est bien. Être un pécheur, ça veut dire qu'on est imparfait. On a manqué la perfection, on a manqué le but. Alors, au ciel, savez-vous comment ça se passe au ciel? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a rien comme ça au ciel. Au ciel, c'est la perfection. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand on meurt et on s'en va au ciel, on est content de ne pas se retrouver de l'autre côté avec la guerre et toutes sortes d'horreurs. Non, au ciel, c'est la perfection et Dieu veut garder ça comme ça. Donc, il veut garder ça parfait. Et pour accéder au ciel, Dieu nous a dit dans sa parole qu'on devait être parfait nous aussi. Mais on réalise tous ici ce matin, quand on parle de Noël, on réalise tous que nous sommes imparfaits. Comment est-ce qu'on va faire? Ah ben là, Dieu... Quand on parle de Noël, Dieu a dit, bien, je regarde, je vois ces gens-là, je les vois, c'est des gens imparfaits. Moi, je vais venir ici sur la terre vivre une vie parfaite à leur place et la punition que leur péché ou leur désobéissance demande, la conséquence de ce péché-là, moi, je vais absorber leur faute, je vais absorber la conséquence. J'aime tellement ma création que je vais me donner pour elle. Je vais me donner pour ces enfants-là qui sont sur la terre. Alors, quand on parle de Noël, on parle de ce Jésus qui a quitté le ciel, qui est descendu du ciel et qui est venu ici dans la forme d'un homme pour donner sa vie, pour vivre une vie parfaite et par la suite recevoir la punition qu'on mérite tous. Et aujourd'hui, je peux vous dire, moi, je suis certain à 100% d'aller au ciel quand je vais mourir. Savez-vous pourquoi? C'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que j'ai réalisé que j'avais besoin d'un sauveur. J'ai réalisé que je suis imparfait. Je suis imparfait, je suis pas parfait, moi. J'ai besoin d'un sauveur. Il y a des gens, des fois, qui m'ont dit, « Mais toi, pasteur Joël, tu prends la religion comme une béquille. » Moi, je peux vous dire, je prends pas la religion. Moi, je suis pas intéressé à la religion. Moi, je suis intéressé à une relation avec Dieu. Être l'ami de Dieu. Dieu nous présente, il nous présente pas la religion, il nous présente une relation, il nous présente une personne. Il veut qu'on devienne ami avec Jésus. Alors, moi, la religion, c'est pas ma béquille. Cependant, Dieu est mon ascenseur. Je peux pas me rendre au ciel tout seul par mes bonnes œuvres, par les choses que je peux essayer de faire, parce que même si j'essaie très très fort, je serai jamais parfait. Je sais, je vais toujours faillir à quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est de me confesser, de dire, Seigneur, je réalise que je suis imparfait, je te demande de me pardonner. Et savez-vous, ceux qui vont être au ciel, est-ce que c'est les gens qui ont jamais rien fait de mal? Non, c'est tous ceux qui ont simplement eu l'humilité, comme Jésus qui a été humble, qui est descendu ici, mais qui a eu les personnes qui ont eu l'humilité de dire, je suis imparfait, j'ai besoin d'être pardonné. Alors, ceux au ciel, c'est les pardonnés. Ceux qui sont pas au ciel, c'est ceux qui voulaient pas le pardon, qui ont passé à côté, ils ont dit, je veux pas être pardonné, je veux conserver ma faute, mon péché. Mais aujourd'hui, quand on parle de Noël, on parle du plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Le fait qu'on peut être totalement pardonné, toutes les vieilles fautes peuvent être effacées. C'est comme si vous avez un ordinateur et vous vous appuyez sur une fonction et vous délitez, vous enlevez toutes les vieilles choses du passé. On peut commencer en neuf avec Dieu à Noël. N'est-ce pas merveilleux? Donc, je vais vous lire un texte, 1 Jean 3:8, ça dit « Le Fils de Dieu, Jésus, a apparu afin de détruire les œuvres du diable, la domination du péché, si vous êtes pris avec l'alcoolisme, peu importe les choses où vous êtes pris, vous êtes dans un piège à quelque part, Jésus est apparu justement pour ça, pour vous sortir de cette prison-là. Il veut enlever la maladie aussi. On voit dans la parole de Dieu que Jésus guérissait partout où il se promenait, il guérissait les gens. Jésus était un homme rempli d'amour, il débordait d'amour pour les gens. Et tellement qu'il nous aimait, on voit ça dans 2 Corinthiens 8-9, c'est Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il était au ciel, il était riche, Jésus au ciel, mais il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Enrichis de quoi? De liberté, de joie, de paix. Toutes ces choses-là, Dieu veut qu'on puisse marcher sur cette terre à chaque jour, ayant les regards vers le ciel, sachant que Dieu nous a pardonné. On n'est pas écrasé par la vie, écrasé par nos problèmes, mais on a quelqu'un qui prend soin de nous. On a quelqu'un qui nous aime et qui a une destinée prévue. Et savez-vous, moi, là, la raison pourquoi j'aime lire la Bible, parce que la Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu m'a écrite. Quand je lis cette lettre-là, je réalise comment Dieu m'aime. Et puis, des fois, je dis ça quand je prêche, Dieu me tripe dessus. Savez-vous ça? Et Dieu vous tripe dessus. Et des fois, je dis même, on est les chouchous du bon Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on vient vers lui puis on accepte ses cadeaux. Moi, mon père, il était toujours super gentil avec moi. Pas toujours, des fois, il me chicanait, là. Mais quand même, de nature, il était toujours merveilleux. Et puis, c'était sa prédisposition de me donner des choses, de me bénir. Je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais un manteau de cuir. Puis, dans le temps, Michael Jackson, vous connaissez, là, c'était super full à mode, là. Puis là, je voyais ça chez Greenbergs, dans le temps. Je disais, j'aimerais ça avoir ce manteau-là de Michael Jackson. Puis là, ma mère a dit, ben, on va aller voir ton père, on va lui demander si on peut l'acheter, parce que dans le temps, c'était pas toujours facile financièrement. Sauf que là, elle est allée voir mon père à son travail. Est-ce qu'on peut y acheter le manteau de Michael Jackson? Puis mon père dit, ben oui, achète-y. Voyez-vous, mon père était toujours prédisposé à me faire des faveurs. Mais imaginez, si vous avez le bon Dieu comme votre père, pensez-vous qu'il veut faire du bien? Des fois, on parle au Québec, ben le bon Dieu ici, le bon Dieu ça, mais le bon Dieu, il a toujours son bat de baseball dans la main d'habitude. Souvent, on entend parler de ça. Bon Dieu m'a envoyé un accident de tour, j'ai tombé malade, le bon Dieu me fait ci, bon Dieu me fait ça. Mais le bon Dieu, j'ai des bonnes nouvelles à vous dire, le bon Dieu est bon. Savez-vous ça? C'est ça, quand on regarde dans la Bible, on voit que notre Père céleste, il est bon, puis il nous aime, il veut qu'on puisse vraiment savourer la joie de Noël à chaque jour de nos vies. C'est pas assez juste une fois par année. Ben non, faut célébrer Noël à chaque jour de nos vies. La paix de Noël a été possible à cause de la croix. Je vais vous lire un texte ici. On peut pas passer à côté la mission de Jésus. Jésus est venu, mais il y avait une mission. Dans Romains 5, 10, ça dit, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. » Je veux juste attirer votre attention pendant quelques instants sur le fait qu'avant de rencontrer Jésus comme notre sauveur personnel, on peut entendre parler de lui, écouter la télévision, puis le voir à télé. On peut voir même dans le temps de Pâques, on voit Jésus de Nazareth, ces films-là. Mais on peut le voir comme étant une personne qu'on connaît de loin. Vous connaissez tous la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Mais peut-être pas intimement. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour vous? C'est que vous puissiez le connaître vraiment intimement. Puis il a tout fait pour que ça soit possible. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous a séparés entre nous et Dieu. Dieu était là et il y avait une grande brisure. Quelle était cette brisure-là? Notre rébellion. On voulait rien savoir de Dieu. On a commis des péchés. Puis Dieu est tellement bon, tellement merveilleux. Il ne peut pas s'associer avec ce qui est mauvais. Il est tellement bon, tellement pur. Alors qu'est-ce que dit? Hey, je vais vous purifier. Je vais vous libérer du mal. Je vais vous libérer de toutes les choses mauvaises. Et quand on accepte d'être réconcilié, de redevenir un ami de Dieu, ah ben c'est merveilleux. On peut marcher avec lui à chaque jour. Et Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Moi, j'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de ce pardon-là. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? C'était la lumière de Noël. Vous savez, il y a des chants de Noël, on parle de la lumière, on parle des étoiles, on parle des grandes choses. Mais la plus grande lumière de Noël, savez-vous, c'est quoi? Dans la Bible, ça nous parle de la nouvelle naissance. C'est que quand dans notre esprit, on est mort spirituellement, ça veut dire on est éloigné de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est faire de nous, même si on est éloigné, il veut nous rapprocher. Et par la suite, il dit, il va venir habiter en nous. Et là, ça, c'est super merveilleux. Dans Jean 1:12, ça dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a des fois des gens qui disent, on est tous des enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais si on croit à la Bible, ça dit, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Comment? En l'accueillant. Vous connaissez l'histoire de Jésus quand il est venu au monde dans l'étable. Il n'a pas été accueilli à l'hôtel, il a été accueilli dans l'étable. Et aujourd'hui, Dieu regarde dans nos cœurs pour voir, est-ce qu'on va l'accueillir dans nos vies? Est-ce qu'on va l'accueillir dans le temps de Noël? Et dans Galates 4:5, ça dit, il nous a permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Donc, on est invité de recevoir cette nouvelle naissance. Ça, c'est la plus belle chose, la plus grande chose. On a tous un être humain, un père biologique, si on veut. On a tous un père biologique, même s'il était présent ou s'il n'était pas là. Peu importe, on vient au monde à cause d'un père et d'une mère. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est qu'on n'ait pas juste un père biologique, il veut devenir notre père spirituel. Ça, c'est l'histoire de Noël. L'invitation maintenant de Noël. Vous savez, on a tous un vide. C'est tout à fait normal d'avoir un vide dans notre cœur. C'est tout à fait normal d'avoir un vide parce qu'on a été créé comme ça. Et là, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut venir rentrer, remplir ce vide-là. Il veut le remplir. Et il nous donne un choix. C'est mon dernier verset ce matin que je vais vous lire. Un dernier verset avant que l'équipe de la louange revienne. Je vais inviter peut-être les musiciens. Vous pouvez déjà venir maintenant. On va continuer avec des chants de Noël. Mais ici, je vais vous lire un texte concernant l'invitation de Noël. Dans Deutéronome 30, verset 19, ça dit, c'est Dieu qui nous parle. Il dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Là, Dieu nous dit quoi faire. Il dit, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. C'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu nous aime tellement, il veut pas qu'on choisisse la mort, il veut pas qu'on choisisse la malédiction, mais Dieu dit, « Je veux que tu choisisses la vie. » Et quand on choisit de prendre cette histoire de Noël et dire, « Moi, je veux pas juste le croire intellectuellement. Je veux pas juste dire, « Oui, je crois que Jésus est venu sur la terre, là, 2000 ans. » Mais je veux croire également qu'il est venu pour moi, qu'il s'est déplacé parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait pas que je sois pris dans ces péchés-là, que je sois pris dans toutes sortes de choses qui m'angoissent. Mais il est venu pour me libérer, pour que je sois dans la joie, que je sois dans la paix et que je puisse être certain à 100% d'aller au ciel un jour. Parce que la Bible dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est une chose qu'on peut savoir aujourd'hui. La seule façon, c'est quand on accueille le prince de la paix et qu'on reçoive cette paix avec Dieu. Donc, savez-vous qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr? Combien d'entre vous, vous aimeriez ça, être 100% certain d'aller au ciel? C'était possible. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça? Mais c'est merveilleux. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais je sais aujourd'hui, savez-vous comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible nous dit comment faire. Ça dit, si tu confesses de ta bouche, pour entrer au ciel, c'est super facile. Ça a été super coûteux parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Lui, il a payé le gros prix. Mais pour nous, c'est super facile. Ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité d'entre les morts, bien, tu seras sauvé. Dieu va te réserver une place au ciel. Des fois, les gens pensent, ben, si je suis une bonne personne, je vais rentrer au ciel. Mais Dieu dit, il n'y a personne d'assez bon pour entrer au ciel. Vous êtes tous quand même un petit peu imparfait. Donc, vous avez besoin d'être pardonné. C'est super simple. Moi, j'ai compris, j'avais 3 ans. J'ai compris que, je suis imparfait, j'ai besoin d'un sauveur. Mais mes enfants aussi, ils comprennent ça. C'est tellement simple. Ça prend la religion pour compliquer les choses. Mais c'est simple, c'est vrai. C'est super simple. On dit, j'ai besoin de toi, Dieu, pas juste à Noël, mais chaque jour de ma vie. Juste cette lumière, cette joie de Noël, à chaque jour. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et là, en plus, on a une proverbe. J'ai menti en passant, pardonnez-moi. J'ai un autre verset, j'ai à quoi vous lire. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Quand vous allez vous présenter devant Dieu, est-ce que vous aimeriez que Jésus dise, hey, ça c'est mon ami, il m'appartient. Il est à moi, c'est mon ami, laisse-les rentrer. Moi, je veux faire partie de la gang qui rentre au ciel, n'est-ce pas? Mais c'est juste nous, on décide, parce qu'il dit, choisis la vie. Il nous donne la liberté de choix. Comme Adam et Ève avaient cette décision à prendre, suivre Dieu ou d'être rebelle, nous, on a le même choix aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fête Noël, on peut se rappeler de ce choix-là. Et là, qu'est-ce qui est merveilleux en terminant? Il dit, c'est le temps favorable. Si on se dit, un jour, je vais le faire, quel est le meilleur temps pour dire oui? Jésus, je te reçois dans ma vie. Oui, je veux que tu sois le roi des rois, le roi de ma vie. Bien, dans la Bible, ça dit, aujourd'hui, c'est temps favorable. Il n'y a pas un meilleur jour comme aujourd'hui. Je veux vous donner un cadeau, admettons, un certificat cadeau chez Walmart ou chez Sears. Puis là, vous dites, quand est-ce que je devrais l'accepter, ce certificat cadeau-là? Moi, je vous dis, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Parce que vous ne savez jamais, d'un coup, si le magasin ferme, vous allez en profiter aujourd'hui. Et c'est la même chose. Dieu vous aime tellement, il vous trippe dessus. Mais il vous aime tellement qu'il aimerait ça vous avoir avec lui pour l'éternité. Alors, tous ceux aujourd'hui qui disent, moi je crois dans Noël, je crois que Jésus est venu avec une mission, je crois que Jésus est venu pour moi. Et non seulement je crois dans ma tête, mais je crois dans mon cœur qui est venu pour moi. Et je veux l'inviter aujourd'hui à être le roi de ma vie. Je vais vous inviter à votre place à vous lever publiquement et dire comme le verset ça dit, si vous le dites publiquement que vous croyez en Jésus, il va le dire publiquement que vous lui appartenez. Alors tous ceux aujourd'hui, vous dites, moi je crois en Jésus, j'ai pas honte de le dire, levez-vous à votre place, tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, à votre place, et là on va juste prier ensemble. Amen. Père éternel, je vais vous demander de répéter après moi, ceux qui croient en Jésus, vous croyez que Jésus est venu pour vous et que vous voulez recevoir son cadeau aujourd'hui. Répétez après moi. Père éternel, je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu pour moi. Je le reçois aujourd'hui. Je ne peux pas passer à côté de ce cadeau. Merci parce que tu nous as donné une relation. Pas une religion. Aujourd'hui, je te couronne comme le roi de ma vie. Je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, on veut également vous donner un petit livre. Bienvenue dans la famille de Dieu. Ça veut dire que vous avez été adopté dans sa famille. Le moment que vous avez prié avec foi et vous croyez, c'est assez simple. Vous venez d'être adopté dans la famille de Dieu. Pas dans une église, mais dans la famille de Dieu. Et là, vous êtes un enfant de Dieu et on est là chaque dimanche. On est là présent pour vous aider à marcher avec lui.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.